Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau pour Lectures en liberté, avec ce soir la suite du roman de Siménon, Le chien jaune. L'inspecteur Leroy, qui avait 25 ans, ressemblait davantage à ce qu'on appelle un jeune homme bien élevé qu'à un inspecteur de police. Il sortait de l'école. C'était sa première affaire et depuis quelques instants, il observait Maigret d'un air désolé, essayait d'attirer discrètement son attention. Il finit par lui souffler en rougissant. « Excusez-moi, commissaire, mais les empreintes ?» Il dut penser que son chef était de la vieille école et ignorait la valeur des investigations scientifiques, car Maigret, tout en tirant une bouffée de sa pipe, laissa tomber « Si vous voulez ». On ne vit plus l'inspecteur Leroy, qui porta avec précaution la bouteille et les verres dans sa chambre et passa la soirée à confectionner un emballage modèle dont il avait le schéma en poche étudié pour faire voyager les objets sans effacer les empreintes. Maigret était assis dans un coin du café. Le patron en blouse blanche et bonnet de cuisinier regardait sa maison du même œil que s'il eût été dévasté par un cyclone. Le pharmacien avait parlé. On entendait des gens chuchoter dehors. Jean Servière, le premier, mit son chapeau sur sa tête. « C'est pas tout ça, je suis marié, moi, et Madame Servière m'attend. À tout à l'heure, commissaire !» Le Pommeret interrompit sa promenade. « Attendez-moi, je vais dîner aussi. Tu restes, Michou ?» Le docteur ne répondit que par un haussement d'épaule. Le pharmacien tenait à jouer un rôle de premier plan. Maigret l'entendit qui disait au patron « Et qu'il est nécessaire, bien entendu, d'analyser le contenu de toutes les bouteilles. Puisqu'il y a ici quelqu'un de la police, il lui suffit de m'en donner l'ordre. » Il y avait plus de 60 bouteilles d'apéritifs divers et de liqueurs dans le placard. « Qu'est-ce que vous en pensez, commissaire ?»«
C'est une idée. Oui, c'est peut-être prudent. »
Le pharmacien était petit, maigre et nerveux. Il s'agitait trois fois plus qu'il n'était nécessaire. On dut lui chercher un panier à bouteilles, puis il téléphona à un café de la vieille ville afin qu'on aille dire à son commis qu'il avait besoin de lui. Tête nue, il fit 5 ou 6 fois le chemin de l'hôtel de l'amiral à son officine, affairé, trouvant le temps de lancer quelques mots aux curieux groupés sur le trottoir. « Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, si on m'emporte toute la boisson ?» gémissait le patron. « Et personne ne pense à manger. Vous ne dînez pas, commissaire ? Et vous, docteur, vous rentrez chez vous ?»«
Non, ma mère est à Paris. La servante est en congé.
Ben, vous couchez ici, alors ?» Il pleuvait. Les rues étaient pleines d'une boue noire. Le vent agitait les persiennes du premier étage. Maigret avait dîné dans la salle à manger, non loin de la table où le docteur s'était installé, funèbre. À travers les petits carreaux verts, on devinait dehors des têtes curieuses qui parfois se collaient aux vitres. La fille de salle fut une demi-heure absente, le temps de dîner à son tour. Puis elle reprit sa place habituelle, à droite de la caisse, un coude sur celle-ci, une serviette à la main.
« Vous me donnerez une bouteille de bière, » dit Maigret.
Il sentit très bien que le docteur l'observait, tandis qu'il buvait. Puis après, comme pour deviner les symptômes de l'empoisonnement. Jean Servière ne revint pas, ainsi qu'il l'avait annoncé, le Pommeret non plus, si bien que le café resta désert car les gens préféraient ne pas entrer et surtout ne pas boire. Dehors, on affirmait que toutes les bouteilles étaient empoisonnées. De quoi tuer la ville entière. Le maire, de sa villa des Sables Blancs, téléphona pour savoir au juste ce qui se passait. Puis ce fut le morne silence. Le docteur Michou, dans un coin, feuilletait des journaux sans les lire. La fille de salle ne bougeait pas. Maigret fumait, placide. Et de temps en temps, le patron venait s'assurer d'un coup d'œil qu'il n'y avait pas de nouveaux drames. On entendait l'horloge de la vieille ville sonner les heures et les demi. Les piétinements et les conciliabules cessèrent sur le trottoir et il n'y eut plus que la plainte monotone du vent, la pluie qui battait les vitres. « Vous dormez ici ?» demanda Maigret au docteur. Le silence était tel que le seul fait de parler à haute voix jeta un trouble. « Oui. Cela m'arrive quelquefois, je vis avec ma mère, à 3 kilomètres de la ville. Une villa énorme. Ma mère est allée passer quelques jours à Paris et la domestique m'a demandé congé pour assister au mariage de son frère. » Il se leva, hésita, dit assez vite « Bonsoir !» et il disparut dans l'escalier. On l'entendit qui enlevait ses chaussures au premier, juste au-dessus de la tête de Maigret. Il ne resta plus dans le café que la fille de salle et le commissaire. « Viens ici !» lui dit-il, en se renversant sur sa chaise. Et il ajouta, comme elle restait debout dans une attitude compassée, « Assieds-toi. Quel âge as-tu ? 24 ans. » Il y avait en elle une humilité exagérée. Ses yeux battus, sa façon de se glisser sans bruit, sans rien heurter, de frémir avec inquiétude au moindre mot, cadrait assez bien avec l'idée qu'on se fait du souillon habitué à toute la dureté. Pourtant, on sentait sous ses apparences comme des pointes d'orgueil qu'elle s'efforçait de ne pas laisser percer. Elle était anémique. Sa poitrine plate n'était pas faite pour réveiller la sensualité. Néanmoins, elle attirait parce qu'il y avait de troubles en elle, de découragés, de maladifs. « Que faisais-tu avant de travailler ici ?»« Je suis orpheline. Mon père et mon frère ont péri en mer sur le Dundee Trois Mages. Ma mère était déjà morte depuis longtemps. J'ai été d'abord vendeuse à la papeterie, place de la Poste. » Que cherchait son regard inquiet. Tu as un amant ? Elle détourna la tête sans rien dire et Maigret, les yeux rivés à son visage, fuma plus lentement, but une gorgée de bière. Il y a des clients qui doivent te faire la cour. Ceux qui étaient là tout à l'heure. Ici, ce sont des habitués, ils viennent chaque soir, ils aiment les belles filles. Alors, lequel d'entre eux ? Plus pâle, elle articula avec une moue de lassitude. « Surtout le docteur. Tu es sa maîtresse ?» Elle le regarda avec des velléités de confiance. « Il en a d'autres. Quelquefois, moi, quand ça lui prend, il couche ici, il me dit de le rejoindre dans sa chambre. » Rarement, Maigret avait recueilli confession aussi plate. « Il te donne quelque chose ?» « Oui, pas toujours. Deux ou trois fois, quand c'est mon jour de sortie, il m'a fait aller chez lui. Encore avant-hier. Il profite de ce que sa mère est en voyage. Mais il a d'autres filles. Et monsieur le Pommeret ? C'est la même chose. Sauf que je ne suis allé qu'une fois chez lui, il y a longtemps. » Il y avait là une ouvrière de la sardinerie et je n'ai pas voulu. Ils en ont de nouvelles toutes les semaines. Monsieur Servière aussi ? Ce n'est pas la même chose. Il est marié, il paraît qu'il va faire la noce à Brest ici. Il se contente de plaisanter, de me pincer au passage. Il pleuvait toujours. Très loin, ululait la corne de brume d'un bateau qui devait chercher l'entrée du port. Et c'est toute l'année ainsi ? Pas toute l'année. L'hiver, ils sont seuls. Quelquefois, ils boivent une bouteille avec un voyageur de commerce. Mais l'été, il y a du monde. L'hôtel est plein. Le soir, ils sont toujours 10 ou 15 à boire le champagne ou à faire la bombe dans les villas. Il y a des autos, des jolies femmes. Nous, on a du travail. L'été, ce n'est pas moi qui sers, mais des garçons. Alors, je suis en bas, à la plonge. Que cherchait-elle donc autour d'elle ? Elle était mal d'aplomb sur le bord de sa chaise et elle semblait prête à se dresser d'une détente. Une sonnerie grêle retentit. Elle regarda Maigret, puis le tableau électrique placé derrière la caisse. « Vous permettez ?» Elle monta. Le commissaire entendit des pas, un murmure confus de voix au premier dans la chambre du docteur. Le pharmacien entra un peu ivre. « C'est fait, commissaire !» 48 bouteilles analysées, et sérieusement, je vous jure, aucune trace de poison ailleurs que dans le Pernod et le Calvados. Le patron n'aura qu'à faire reprendre son matériel. Dites donc, votre avis entre nous. Des anarchistes, hein, pas vrai ? Emma revenait, gagnait la rue pour poser les volets, attendait de pouvoir fermer la porte. « Eh bien, » fit Maigret, quand ils furent à nouveau seuls. Elle détourna la tête sans répondre, avec une pudeur inattendue. Et le commissaire eut l'impression que s'il la poussait un peu, elle fondrait en larmes. « Bonne nuit, mon petit, » lui dit-il.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent le sexe géant d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs,
dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Dans la salle du bar. Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette pause musicale, nous reprenons donc notre lecture du roman de Siménon, Le chien jaune. La plage des sables blancs, bordée de quelques villas et entre autres d'une somptueuse demeure méritant le nom de château et appartenant au maire de la ville, s'étire entre deux pointes rocheuses, à 3 kilomètres de Concarneau. Maigret et son compagnon pataugèrent dans le sable couvert de goémons, regardèrent à peine les maisons vides aux volets clos. Au-delà de la plage, le terrain s'élève. Des roches à pic couronnées de sapins plongent dans la mer. Un grand panneau. Lotissement des sables blancs. Un plan, avec en teintes différentes les parcelles déjà vendues et les parcelles disponibles. Un kiosque en bois, bureau de vente des terrains. Enfin la mention, en cas d'absence, s'adresser à M. Ernest Michou, administrateur. L'été, tout cela doit être riant, repeint à neuf. Dans la pluie et la boue, dans le tintamarre du ressac, c'était plutôt sinistre. Au centre, une grande villa neuve, en pierre grise, avec terrasse, pièces d'eau et parterre non encore fleuries. Plus loin, les ébauches d'autres villas, quelques pans de murs surgissant du sol et dessinant déjà des pièces. Il manquait des vitres au kiosque. Des tas de sable attendaient d'être étalés sur la nouvelle route qu'un rouleau compresseur barrait à moitié. Au sommet de la falaise, un hôtel. Ou plutôt un futur hôtel inachevé, aux murs d'un blanc cru, aux fenêtres closes à l'aide de planches et de cartons. Maigret s'avança tranquillement, poussa la barrière donnant accès à la villa du docteur Michou. Quand il fut sur le seuil et qu'il tendit la main vers le bouton de la porte, l'inspecteur Leroy murmura « Nous n'avons pas de mandat. Ne croyez-vous pas que… » Une fois de plus, son chef haussa les épaules. Dans les allées, on voyait les traces profondes laissées par les pattes du chien jaune. Il y avait d'autres empreintes. Celle de pieds énormes, chaussés de souliers à clous, du 46 pour le moins. Le bouton tourna. La porte s'ouvrit comme par enchantement, et l'on put relever sur le tapis les mêmes traces boueuses, celles du chien et des fameux souliers. La villa, d'une architecture compliquée, était meublée d'une façon prétentieuse. Ce n'était partout que recoins avec divans, des bibliothèques basses, des lits clos bretons transformés en vitrines, des petites tables turques ou chinoises, beaucoup de tapis, de tentures. La volonté manifeste de réaliser avec les vieilles choses un ensemble rustico-moderne. Le commissaire regardait ce bric-à-brac d'un air grognon, tandis que l'inspecteur Leroy n'était pas sans se laisser impressionner par cette fausse distinction. Et Maigret ouvrait les portes, jetait un coup d'œil dans les chambres, certaines n'étaient pas meublées, les plâtres des murs étaient à peine secs. Une dizaine de boîtes de conserve avaient été ouvertes grossièrement avec un couteau quelconque. La table était sale, graisseuse. On avait mangé à même les boîtes des harengs au vin blanc, du cassoulet froid, des cèpes et des abricots. Le sol était maculé. Il y traînait des restes de viande. Une bouteille de fine champagne était cassée et l'odeur d'alcool se mêlait à celle des aliments. Maigret regarda son compagnon avec un drôle de sourire. « Vous croyez, Leroy, que c'est le docteur qui a fait ce repas de cochon ?» Et comme l'autre, sidéré, ne répondait pas, « Sa maman non plus, j'espère, ni même la domestique, tenez. Vous qui aimez les empreintes, ce sont plutôt des croûtes de boue qui dessinent une semelle, pointure 45 ou 46, et les traces du chien. » Il bourra une nouvelle pipe, prit les allumettes au soufre sur une étagère.
Relevez-moi tout ce qu'il y a à relever ici. Ce n'est pas la besogne qui manque. À tout à l'heure. »
Il s'en alla, les deux mains dans les poches, le col du pardessus relevé le long de la plage des sables blancs. Quand il pénétra à l'hôtel de l'amiral, la première personne qu'il aperçut fut dans son coin le docteur Michou, toujours en pantoufles, non rasé, son foulard autour du cou. Le Pommeret, aussi correct que la veille, était assis à côté de lui et les deux hommes laissèrent avancer le commissaire sans mot dire.
Ce fut le docteur qui articula enfin d'une voix mal timbrée « Vous savez ce qu'on m'annonce ? Servière a disparu. Sa femme est à moitié folle. Il nous a quittés hier au soir. Depuis lors, on ne l'a pas revu. »
Maigret eut un haut-le-corps. Non pas à cause de ce qu'on lui disait, mais parce qu'il venait d'apercevoir le chien jaune couché au pied des mâts.
Le Pommeret éprouvait le besoin de confirmer pour le plaisir de s'entendre parler. Elle est venue chez moi tout à l'heure, en me suppliant de faire des recherches. Servière, qui de son vrai nom s'appelle Goyard, est un vieux camarade.
Du chien jaune ? Le regard de Maigret passa à la porte qui s'ouvrait, aux marchands de journaux qui entraient en coup de vent, et enfin à une manchette en caractère gras qu'on pouvait lire de loin.
« La peur règne à Concarneau. »
Des sous-titres disaient ensuite « Un drame chaque jour. Disparition de notre collaborateur Jean Servière. Des taches de sang dans sa voiture. À qui le tour ?»
Maigret retint par la manche le gamin aux journaux.
« Tu en as déjà vendu beaucoup ? »
« 10 fois plus que les autres jours. Nous sommes 3 à courir depuis la gare. »
Relâché, le gosse reprit sa course le long du quai en criant
« Le phare de Brest, numéro sensationnel !»
Le commissaire n'avait pas eu le temps de commencer l'article. Qu'Emma annonçait « On vous demande au téléphone. »
Une voix furieuse, celle du maire. « Allons, c'est vous, commissaire, qui avez inspiré cet article stupide ? Et je ne suis même pas au courant ? J'entends, n'est-ce pas, être informé le premier de ce qui se passe dans la ville dont je suis le maire. Mais quelle est cette histoire d'auto ? Et cet homme au grand pied ? Depuis une demi-heure, j'ai reçu plus de 20 coups de téléphone de gens affolés qui me demandent si ces nouvelles sont exactes. Je vous répète que je veux que désormais... »
Maigret, sans broncher, raccrocha, rentra dans le café, s'assit et commença à lire.
Michou et le Pommeret parcouraient des yeux un même journal posé sur le marbre de la table. Notre excellent collaborateur Jean Servière a raconté ici même les événements dont Concarneau a été récemment le théâtre. C'était vendredi. Un honorable négociant de la ville, M. Mostaguen, sortait de l'hôtel de l'amiral, s'arrêtait sur le seuil pour allumer un cigare et recevait dans le ventre une balle tirée à travers la boîte aux lettres de la maison. Une maison inhabitée. Samedi, le commissaire Maigret, récemment détaché de Paris et placé à la tête de la brigade mobile de Rennes, arrivait sur les lieux, ce qui n'empêchait pas un nouveau drame de se produire. Le soir, en effet, un coup de téléphone nous annonçait qu'au moment de prendre l'apéritif, 3 notables de la ville, messieurs Le Pommeret, Jean Servière et le docteur Michou, à qui s'étaient joints les enquêteurs, s'apercevaient que le pernod qui leur était servi contenait une forte dose de strychnine. Or, ce dimanche matin, l'auto de Jean Servière a été retrouvé près de la rivière Saint-Jacques, sans son propriétaire, qui depuis samedi soir n'a pas été vu. Le siège avant est maculé de sang. Une glace est brisée et tout laisse supposer qu'il y a eu lutte. 3 jours, 3 drames. On conçoit que la terreur commence à régner à Concarneau, dont les habitants se demandent avec angoisse qui sera la nouvelle victime. Le trouble est particulièrement jeté dans la population par la mystérieuse présence d'un chien jaune que nul ne connaît, qui semble n'avoir pas de maître et que l'on rencontre à chaque nouveau malheur. Ce chien n'a-t-il pas déjà conduit la police vers une piste sérieuse ? Et ne recherche-t-on pas un individu qui n'a pas été identifié mais qui a laissé à divers endroits des traces curieuses, celles de pieds beaucoup plus grands que la moyenne ? Un fou? Un rôdeur? Est-il l'auteur de tous ces méfaits? À qui va-t-il s'attaquer ce soir?
Sans doute rencontrera-t-il à qui parler, car les habitants effrayés prendront la précaution de s'armer et de tirer sur lui à la moindre alerte. En attendant, ce dimanche, la ville est comme morte, et l'atmosphère rappelle les villes du Nord quand, pendant la guerre, on annonçait un bombardement aérien. Maigret regarda à travers les vitres. Il ne pleuvait plus, mais les rues étaient pleines de boue noire, et le vent continuait à souffler avec violence. Le ciel était d'un gris livide. Des gens revenaient de la messe. Presque tous avaient le phare de Brest à la main, et tous les visages se tournaient vers l'hôtel de l'amiral, tandis que main passant pressait le pas. Il y avait certes quelque chose de mort dans la ville. Mais n'en était-il pas ainsi tous les dimanches matins? La sonnerie du téléphone résonna à nouveau. On entendit Emma qui répondait.
« Je ne sais pas, monsieur, je ne suis pas au courant. Voulez-vous que j'appelle le commissaire? Allô? Allô ?»
On a coupé. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna Maigret. « Un journal de Paris, je crois. On demande s'il y a de nouvelles victimes. On a retenu une chambre. »
Appelez-moi le phare de Brest à l'appareil. »
En attendant, il marcha de long en large, sans jeter un coup d'œil au docteur affalé sur sa chaise, ni à Le Pommeret, qui contemplait ses doigts lourdement bagués. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Lectures en Liberté en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.